sur Europe 1.
23h31, vous êtes sur la libre antenne et je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de l'émission si vous souhaitez voir ce lien qui vous mènera à l'appel à témoins concernant le petit Mathis Joanneau. Nous accueillons maintenant Sichka. J'espère que j'ai bien prononcé votre prénom, Sichka.
Oui, Olivier.
C'est ça, Sichka.
Bonsoir.
Comment
voilà.
Ça va ?
Je suis. Je dis souvent, on fait aller pour ne pas dire quand ça ne va pas, mais parce que tous les jours, on essaye de prendre que le positif, hein, quand on a affaire à un problème qui revient tous les jours. Le monde entier, pour le moment, a affaire à un virus. Moi, j'ai affaire à un parasite dont je n'arrive pas à me débarrasser, c'est-à-dire mon ex-mari.
Un parasite,
voilà.
C'est fort hein, ce que vous dites.
Oui.
Ce mari, donc, c'est un parasite. En quoi est-il un votre parasite en fait ? Parce que je suppose que il vous,
oui,
il vous fait, il est assez toxique pour vous, ce mari.
Voilà, il est à la fois toxique et puis surtout il refuse l'idée de la séparation, du divorce, hein, parce que donc ça fait un an et demi que je lui ai annoncé que je voulais divorcer, et enfin il y aura 2 ans en juillet, et il a directement refusé. Ça faisait plus de 20 ans que nous étions mariés, mais ça faisait 20 ans que je supportais. Et je supportais parce que il s'est accroché à moi comme à une bouée, estimant qu'il n'avait rien à faire, pas lever le petit doigt, etc. Donc pendant 20 ans, j'ai tout tiré, le ménage, mon métier, tout dans la maison, et j'ai payé de ma santé.
Oui.
Parce que je ne dis pas que c'est lui qui a entièrement causé ma maladie, mais disons que ça n'en a sûrement pas arrangé. On m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson il y a 6 ans. Voilà, donc, et puis ici, j'ai eu d'autres soucis, mais là, qui sont plus récents. Et ça le dérangeait pas. À partir du moment où j'ai été diagnostiquée, que j'ai pu prendre des médicaments, c'était pas grave, hein. Donc, on continuait à rester dans son fauteuil pendant que on me regardait tout faire. Et puis, donc, un jour, le rideau est tombé et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas mérité.
Parce qu'il y a eu quand même toute une période en vous écoutant, hein, Sichka, où vous n'aviez pas percuté, justement, en fait. Elle a duré combien de temps, cette période, exactement ?
Mais, en fait, c'est pas que je n'avais pas percuté. J'avais percuté, mais j'acceptais. Disons que j'ai eu, tout au début, quand on s'est rencontrés, tout était très bien, très beau. On s'entendait très bien, et ça a duré 3 ans, jusqu'au moment où j'ai accepté de me marier. Et puis là, il a commencé à montrer son vrai visage. Donc, je dis, j'ai eu l'appartement ou la maison témoin pendant 3 ans. Et puis après, la maison a commencé à se dégrader. Mais une fois qu'on est engagé, on a du mal après à faire marche arrière.
Bien sûr.
Et voilà. Et il y a eu le mariage, les bébés. Et on continue.
Combien de bébés ?
Et on espère toujours. Deux, qui sont grands maintenant, enfin une 21 ans bientôt et l'autre 13. Et on espère que ça va aller, et puis après, un jour, on se rend compte qu'on a beau demander de participer un petit peu plus, d'arrêter de dépenser tout son argent, et ça marche pas. Donc,
que fait-il cet homme en fait dans la vie?
Il est journaliste indépendant, mais il gagne très très mal sa vie.
Alors, journaliste indépendant, ça veut dire, parce que vous savez, il y a plein de gens qui se déclarent journaliste indépendant, donc du coup, est-ce qu'il a sa carte de presse?
Oui. Disons qu'il l'a eu, mais pour le moment, il ne l'a plus parce qu'il refusait de payer. Il est très près de ses sous, enfin non. C'est-à-dire qu'il est très dépensier, mais il choisit pourquoi il dépense. Donc,
il est très dépensier en quoi, alors dites-moi, Sichka.
Des disques, des CD, des livres. Enfin, d'accord. Des disques, donc, ça c'est l'ancien mot. Les CD et des bouquins et des vêtements, tout un temps.
Et cet homme, donc, lorsque vous le rencontrez, oui. En fait, et que vous tombez amoureuse de lui, sans doute, quels sont... Il est déjà, comme ça, amoureux de la musique, de la littérature. C'est un peu un artiste, un dandy, un peu... vous en gardez ce souvenir-là?
Oui, c'est ça. Oui. Oui, si ce n'est qu'en fait, il était toujours chez ses parents. Alors que moi, je suis partie très vite, très tôt. Oui. J'étais indépendante très rapidement. J'étais installée, j'avais mon appartement et tout. Et tandis que lui était chez ses parents, donc forcément, et ses parents ne lui demandaient aucune collaboration financière. Oui. Oui. Donc, il était habitué à son argent, c'était juste pour se faire
l'argent
plaisir.
L'argent de poche.
Voilà, exactement. Et il a continué comme ça. Et moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un homme ne soit pas responsable financièrement. Enfin, c'est-à-dire, je ne m'étais même pas posé la question parce que pour moi, c'était une évidence. Et donc, avant qu'on se marie, je ne lui ai jamais demandé quels étaient ses revenus.
Oui.
Je me disais, il gagne certainement sa vie comme moi. Enfin, moi, j'étais dans la moyenne et puis voilà. Mais en fait, non. Il préférait aller faire des tours à vélo, se reposer, prendre soin de lui. Et au moins, ça, lui, il est toujours en forme. Hein. Il est toujours en pleine santé. Et comment ? Il râlait sur tout ce qui était les charges normales quand on s'installe, donc quand il fallait payer l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Mmh. Oh là là, ça c'est embêtant, ça ne va pas, parce qu'il n'avait jamais été habitué à ça.
Et il travaille en fait, ça fait 20 ans que vous êtes mariés maintenant.
Oui.
Il travaille pour des rubriques culture en fait, ou il est
Non.
Non,
il fait du local.
D'accord.
De la presse régionale, donc c'est aussi un faux indépendant, hein. Enfin, comme on dit souvent aussi, donc c'est-à-dire il est attaché en fait à un journal, mais simplement le journal pour ne pas devoir payer tous les droits sociaux, etc. Bon, voilà, je suppose que c'est la même chose aussi en France, enfin je ne sais pas, mais
En tout cas, ce journal fait appel à lui régulièrement, lui fournit en tout cas un minimum de travail, plus ou moins chaque mois, et d'accord.
Oui. Mais c'est très mal payé. Un article est payé la même chose qu'il y a 25 ans,
oui.
C'est-à-dire 25 euros brut. Mm-hmm. Je sais pas si vous voyez.
Bah si.
Donc
si je vois. Et
ça fait très peu. Hein.
Ça fait très peu. Et en fait,
ouais.
Il n'a jamais cherché à s'élever ou en tout cas à améliorer. Mm-hmm. Donc. En tout cas, élargir un peu ce domaine d'action, domaine d'activité,
si,
c'est-à-dire
si,
travailler
si.
Pour d'autres journaux.
Si, c'est-à-dire que, forcément, moi, je lui demandais d'essayer, de qu'on puisse vivre un peu mieux de par son côté, parce qu'en plus, il avait d'autres atouts, hein, il est photographe de formation, donc il aurait pu aussi faire de ce côté-là. Mais c'est pas quelqu'un qui prend des décisions, qui fait des démarches et tout, qui a des idées. Et la seule fois où il a pu augmenter un peu ses revenus, il était chauffeur. Et ça se passait très très bien parce qu'il était chauffeur pour un député. Donc voilà, c'était seulement tout ce qu'il gagnait a été dépensé automatiquement et directement dans des vêtements et des choses inutiles.
C'est marrant parce que vous en parlez comme d'un étranger, votre mari.
On est divorcés. Hein.
D'accord, mais vous êtes divorcés, et donc il continue, vous m'avez dit qu'il continuait à s'accrocher.
Oui. Oui, parce qu'on est divorcés, mais la liquidation des biens n'a toujours pas eu lieu.
Oui.
Et c'est là qu'il refuse, parce qu'en fait, il comptait sur moi pour sa retraite, parce que lui aura une retraite deux fois moindre que la mienne.
Oui, mais vous avez travaillé pour
donc avoir
votre retraite. Vous avez cotisé, donc votre retraite, c'est votre retraite. La sienne, c'est la sienne.
Oui, mais il comptait vivre dessus. voyez. Il m'a dit une fois, moi, il est hors de question que je travaille jusque 67 ans, parce que chez nous, c'est 67 ans. Donc, je vais arrêter dans 2 ou 3 ans. Hein. Il avait 52, 53 ans. Il dit, à 55 ans, j'arrête. D'accord. Et je lui dis, que comptes-tu faire ? Oh, ben, je vais m'occuper de tout dans la maison, me dit-il. Il n'a jamais touché à rien. Hein. Il ne savait pas où, il ne sait pas où se trouvent les choses. Et je lui dis, et comment vas-tu mettre de l'essence dans ta voiture ou changer tes chaussures quand ce sera nécessaire? Alors, il me regarde et il me dit, mais à partir du moment où je m'occuperai de tout, tu pourras me donner un salaire. Voilà. Et ça, c'était... J'ai eu le souffle coupé, mais je lui ai quand même répondu. Donc, moi, je vais te donner un salaire pour faire ce que je fais depuis 20 ans, gratuitement, en plus du reste. Et puis, je pense qu'il s'est rendu compte de ce qu'il venait de dire et il n'a plus rien dit.
En fait, j'ai l'impression que cet homme, en fait... Il était un peu partisan du moindre effort, en fait, parce que quand on compte par les temps qui courent, hein, et c'est encore, ça n'est encore que mon opinion, quand on compte être à la retraite à 55 ans, il y a déjà un truc qui m'échappe, moi, là. Vous voyez ?
Oui.
Parce que ça veut dire que on va s'arrêter à 55 ans. Et compter sur voilà une retraite. Alors bon, sans doute, il y a plein de gens que ça ravit de s'arrêter de travailler et de, à partir de 55 ans, d'aller à la pêche, de faire tout un tas de choses. Hein, je dis aller à la pêche, ça peut paraître un peu négatif comme, mais bon, mais la plupart des gens que je connais, moi, qui ont été qui se sont retrouvés à la retraite, se sont franchement profondément embêtés. Et puis.
Ah non, mais lui n'est jamais plus heureux qu'en vacances.
Oui, alors je connais ce type de personnage, en fait, de personnes qui rêvaient d'être à la retraite à 55 ans, à 56 ans, ne s'embêtant jamais quand on est en vacances, comme vous dites. Sauf que, on peut considérer, en tout cas de mon point de vue, que si on veut avoir une bonne retraite à 55 ans, eh bien, ça veut dire qu'avant, on a fourni du boulot. En tout cas, j'ai l'impression que la retraite, elle correspond à ça. Et je vous avoue que j'étais, je suis toujours assez ignare en la matière. Hein. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. Mais tout ça parce que moi, je veux vivre, au dernier jour de ma vie, je travaillerai si je peux. Parce que le travail fait partie de mon équilibre et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas, mais d'autres, plein d'autres qui sont dans le cas de votre mari. Pour cela, en fait, la donne est simple. Vous voulez être à la retraite tôt. Bon, et ben il faut voir un petit peu ce que vous avez fait avant et voir ce que vous allez. D'abord, si vous avez le droit à cette retraite à 55 ans, il me semble qu'il y a très peu de Français aujourd'hui qui ont le droit à cette retraite.
Mais de toute façon, il n'y avait pas droit. Il n'y avait pas droit à cette retraite.
Ça m'étonne pas. On va marquer une petite pause si vous voulez bien, Siska. Je rappelle à nos auditeurs que si vous voulez réagir à ce que raconte Siska, n'hésitez pas. Envoyez vos SMS au 739-21 ou vous nous appelez au 39-21 pour peut-être même échanger avec elle si vous êtes dans le même cas, bien évidemment. Vous restez avec moi, Siska, on se retrouve tout de suite.
Oui.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39-21, 50 centimes la minute.
Bonjour Emmanuel Macron.
Il va falloir travailler. Et que réclament les Français ? Des lits.
La revue de presque de Nicolas Canteloup, un incontournable d'Europe 1.
Mais vous m'avez saoulé pendant 20 ans à pleurnicher. Ouais, Angela, tu es trop dur, t'es trop dur. Et bien maintenant, je vous laisse avec une ardoise de 500 milliards.
Nicolas Canteloup, dans la matinale d'Europe 1, demain à 9h moins le quart.
C'est, croyez-moi, je suis un spécialiste. C'est de la haute voltige. Merci Nelson.
Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique.
Quand on est maman célibataire, c'est pas évident de trouver le bon. Alors, le jour où Clément s'est levé avant moi pour s'occuper de mon fils, j'ai su que c'était lui.
Ouais, il s'est même endormi. Bon, en à peine 2 heures.
Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr.
Mythique.
En ce moment, c'est les French Days sur Cdiscount. Venez profiter d'offres incroyables en déco, bricot, jardin, jeux vidéo, sport, jouets, téléphonie, puériculture et bien plus encore. Et chez Cdiscount, vous pouvez payer en 4 fois. Oui, j'ai bien dit en 4 fois. Et à partir de 25 euros d'achat, la livraison à domicile est offerte. Rendez-vous tout de suite sur Cdiscount.
Cdiscount.
Voir conditions de livraison et du paiement en 4 fois sur le site. French Days, les journées à la française du 27 mai au 1er juin.
d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h46, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous appeler au 3921. Florian est là et vous attend. Siska, en fait, ce mari, aujourd'hui, donc, vous nous avez dit qu'il voulait profiter de votre retraite à vous. On a un dicton en Normandie qui parle d'argent du beurre et, vous savez, de la fermière. Est-ce que ça n'est pas un peu le cas chez votre mari?
Ah oui, tout à fait, c'était ça. Vous savez, en fait, c'était pas vraiment la retraite hein, qu'il voulait. Il avait envisagé, étant donné ma maladie, normalement, je peux être en arrêt de... Je veux dire, le médecin de la Sécurité sociale a considéré que je ne pourrais jamais retravailler. Mais moi, j'ai quand même voulu, donc je travaille toujours à mi-temps. Et lui m'avait dit, tu sais quoi, on va aller à l'étranger, comme ça on pourra vivre avec tes indemnités, avec tes allocations de maladie. Voilà, ça c'était son objectif.
Après...
À un moment.
Il y a pas mal de Français hein, qui décident de faire cela, et ça n'est pas négatif hein, de penser comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on a des droits en France, et bon, une retraite, et on a le droit de toucher sa retraite et d'être à l'étranger. Par exemple, au Maroc, vous voyez, il y a beaucoup de Français qui, aujourd'hui, décident d'aller vivre au Maroc ou au Sénégal. Et c'est sûr que leur pouvoir d'achat est démultiplié à partir du moment où vous décidez de... Voilà, mais pour ça, il faut s'aimer, il faut continuer à être cohérent dans le couple. Or, j'ai l'impression que ça fait un moment que ce type de sujet et de projet ne vous branche absolument plus, vous.
Non, vous savez, quand vous souffrez, parce que, ma maladie, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais il y a deux formes,
je connais,
plus ou moins... Donc il y a la forme qui est la plus connue où ce sont les personnes plus âgées qui tremblent et généralement elles me disent qu'elles n'ont pas mal. Et par contre quand on est plus jeune c'est plus un problème de tension permanente dans les muscles. Donc c'est une douleur constante presque. Il y a plein de choses hein, pour améliorer mais donc lui me voyait souffrir mais ça le dérangeait pas. Mon neurologue nous avait rassemblés pour expliquer la maladie.
Quand vous dites Siska, que ça ne le dérangeait pas, ça veut dire quoi en fait?
Mais ça veut dire que par exemple nous étions en vacances l'an dernier, hein, enfin juste quelques semaines avant que tu annonces que je partais. Nous devons quitter l'appartement et le rendre propre. Je lui demande de m'aider et il me dit « Oui, mais ça va pas, il faut faire ça et ça. » Donc, j'ai préféré le laisser partir à la plage. Et il est parti à la plage en me laissant tout nettoyer. Il revient à midi, il m'annonce qu'il a invité des gens pour prendre l'apéro le soir. Je lui dis « Mais non, nous partons demain à 4h au matin. C'est pas possible, je vais devoir tout repasser derrière. » Eh bien, il a quand même invité ces personnes. Et j'ai quand même dû repasser derrière. Avec toute je travaillais pendant une heure et puis je devais m'asseoir, me reposer un petit peu. Je retournais un peu à la piscine, hein, par exemple.
Ouais.
Mais lui, je veux dire, il savait que j'avais mal, mais ça le dérangeait pas.
Est-ce qu'à votre avis, cet homme ne vous aimait plus?
Oui, je pense qu'il ne m'a jamais aimée. Je pense qu'il a juste aimé l'idée de se marier. Il a eu de la chance, je dirais presque, parce que moi, j'avais voulu... ce n'était pas l'amour fou, et je le reconnais, hein. Mais bon, il y avait eu des tas de choses, et puis lui avait tellement insisté, et cette fois-là, ben, j'ai fait l'erreur de ma vie, et j'ai accepté, et ici, je n'accepte pas de reprendre, hein. Il a tout le temps réessayé, mais bon, il ne veut pas me récupérer, moi, il veut récupérer ce qu'il a eu pendant 20 ans, parce que pendant 20 ans, ben, il a été comme un roi.
Oui. Il a été avec une femme qui ne disait rien, qui repassait, qui lavait la maison, qui il y a quelque temps s'est mise à dire non. Ce confinement là, j'ai cru comprendre que vous l'aviez vécu ensemble en fait.
Non.
Ah bon? Parce que je lis sur votre fiche que ce confinement a été un cauchemar avec lui qui était odieux, donc je l'ai mis dehors. Il est dans un studio à côté de la maison. Comment se fait-il qu'il était...
Non, ça doit être quelqu'un. Ça doit être quelqu'un d'autre.
D'accord.
Moi, je suis partie quand je lui ai annoncé que c'était fini.
Il y a combien de temps ?
Je loue un appartement ailleurs, il y a un an et demi. Le divorce a été très vite prononcé parce que, entre autres, j'étais tombée tout à fait par hasard sur des sites de rencontres dans lesquels il était inscrit. Donc ça m'a servi.
Vous aviez donc pas parlé de l'essentiel quand même. Parce que en plus des CD, des vêtements et donc de la musique et tout ça, et de son petit confort, il se faisait son petit tour quand même sur les sites de rencontres.
Voilà, oui. Mais apparemment, il ne concrétisait pas. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et vous savez pourquoi ? Il me dit, je n'aurais jamais concrétisé, tu sais. Il va me dire parce que je t'aime trop. Mais non, il m'a dit parce que je n'aurais jamais osé. Donc en fait, il n'avait pas d'y aller, mais il n'avait pas peur de me dire que c'était pour ça.
Il y en a d'autres, c'est regarder le match de football. Et puis lui, c'était regarder les sites de rencontres. Voilà.
Mmh. Et bon, j'ai expliqué que quand j'ai vu ce qu'il avait fait, eh bien, je me suis créé un faux profil qui ne pouvait que l'attirer, ce qui a été le cas. Et donc, pendant 2 mois, il m'a dragué.
C'est dingue.
Sans savoir que c'était moi. Mmh. Nous habitions toujours ensemble à l'époque parce qu'en fait, je ne lui ai pas dit tout de suite que je partais parce que j'avais ma fille qui était à l'étranger, je préférais attendre. Et donc, j'ai dû rester pendant quelques mois comme ça. Et donc, il m'envoyait des messages, il était dans son bureau, moi j'étais dans mon lit, dans la même maison. Donc, à une autre.
Oui, et alors, est-ce que ce prétendant vous donnait l'impression qu'il n'allait pas conclure ?
En tout cas, il m'invitait à danser.
Ah. Voilà.
Il a insisté plusieurs fois pour aller boire un verre, me rencontrer, éventuellement aller danser. Voilà.
C'est digne d'un film, hein, ce que vous me racontez, vraiment. Se rendre compte que son mari est donc sur un des sites de rencontre et créer donc un faux profil et donc se laisser faire la cour par ce mari, c'est bravo quand même parce que
je vous assure que c'est véridique.
Ah mais je n'en doute pas une seule seconde. Mais c'est très bien que vous ayez fait ça parce que je pense que ça vous a déterminé vraiment dans votre choix d'arrêter parce que ça, de toute façon, ça il y a pas pire, voyez. Il n'y a pas pire que ça. Je le dis souvent ici, hein. Je n'ai pas peur de le dire, quoi. Un engagement, l'amour, quoi. On a le droit de ne plus aimer. On a le droit de s'être engagé, mais à un moment de ne plus aimer mais on dit stop et on s'en va. Mais on commence pas à faire des slaloms géants à droite, à gauche et à perdre les autres, à se perdre soi-même, parce que ça ne peut qu'aboutir à des souffrances pour les uns et les autres, et même pour soi-même, finalement. Quoi. Quand on n'aime plus, il faut avoir le courage de dire « Je m'emmerde, je ne t'aime plus, c'est fini, et je m'en vais. »
Oui.
Voilà.
Mais Vous dites que c'est du courage, mais pour lui, c'est de la responsabilité. Je suis responsable de tout ce qui est arrivé.
Mais non, parce que vous avez eu le courage, vous, Siska. Oui. Vous avez eu le courage à un moment de dire que vous ne vouliez plus de cette vie-là. En fait, finalement, c'est vous qui avez eu le courage de tout ça.
Oui, mais je paye pour le moment, je paye le prix fort parce que comme il refuse absolument de se décider, je l'ai laissé dans la maison. En plus, je lui ai laissé le choix de tout. Il est dans la maison, je lui demande rien. C'est moi qui paye un loyer ailleurs. Donc ici, je lui demande depuis des mois de me dire si oui ou non il peut racheter la part de la maison. Et il traîne, il trouve plein de prétextes. Ici, c'était notamment le confinement.
Ouais.
Et maintenant, il doit me revoir parce que les choses ont considérablement changé à cause du confinement. Il va me proposer quelque chose, mais je sais que c'est quelque chose pour ne pas lâcher ni la maison, ni l'appartement. On avait un appartement à l'étranger aussi. Et voilà, en fait, il veut tout. Et...
Moi, je vais vous dire, Siska, je vais vous dire, mais je pense que vous savez déjà, il faut que, avec votre avocat, vous posiez bien les choses et que, voilà, vous le mettiez devant, au pied du mur, quoi. Il faut que vous vendiez cette maison.
Oui.
Hein? Aujourd'hui, vous souffrez d'une maladie quand même sérieuse, hein, qui peut être évolutive, et donc. Qui est évolutive et qui y a pas vraiment de temps à perdre. Donc il faut vendre cette maison, il faut vendre cet appartement. Aujourd'hui, vous avez fait le choix, vous, d'arrêter cette histoire. Et maintenant, il y a les enfants dont on n'a pas parlé. Et il va falloir qu'on en parle quand même parce que ces enfants, ils ont un père. Et obligatoirement, je pense que ce père, il compte dans leur vie et que ça doit être un levier. En tout cas, ça peut être un levier dans cette histoire. Donc, comment ils vivent ça, vos enfants ?
Oui, en fait, pas vraiment. Hein. Donc, l'aîné qui a plus de 20 ans, il ne s'en est jamais occupé. Et donc, quand j'étais enceinte et quand elle est née, il a fait une dépression. Donc, j'ai quasiment accouché seule. J'ai tout préparé toute seule parce que lui était préoccupé par autre chose. Et il ne s'est jamais occupé de l'aînée qui refuse de... Elle va de temps en temps, mais elle ne le voit quasiment pas.
Et la petite ?
Elle ne le supporte pas. La petite, elle n'a pas vraiment le choix. Parce qu'il a voulu l'avoir une semaine sur deux. J'ai accepté parce que de toute façon, moi, je trouvais que c'était pour son bien. Le problème, c'est qu'il lui fait du chantage affectif et qu'elle souhaitait ne plus aller beaucoup moins parce que c'est la même chose. Elle me dit, si j'y vais pas, il va être trop malheureux.
Vous savez, on va continuer donc à parler de cette petite parce que il y a un point sensible. Mais l'info arrive sur Europe 1 dans quelques instants. Donc on fait une petite pause et puis on se retrouve juste après les informations, d'accord ? À tout de suite, Siska.
Oui, tout à fait, oui.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 6 minutes, vous êtes sur votre radio, sur Europe 1, et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Nous sommes avec Siska qui nous parle de sa séparation avec son mari, qui visiblement a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est qu'une séparation, hein, Siska, puisque vous nous parliez d'une maison, d'un appartement, qu'il avait du mal à quitter. Mais il y a votre fille de 13 ans, en fait. Comment vit-elle cela, en fait, puisque vous nous disiez qu'il lui faisait un chantage affectif. En fait, quel type de chantage il lui fait ?
Il lui dit « Si toi, tu ne viens plus, je suis tout seul. Je serai abandonné complètement.
Oui. »
Parce qu'en fait, il n'a quasiment pas d'amis. Il a très peu de famille et pratiquement pas d'amis. Donc, il est toujours tout seul. Et je pense que la venue de notre fille une semaine sur deux est vraiment attendue. Maintenant, je ne dis pas qu'il s'en occupe spécialement bien, parce que comme il n'a jamais rien fait dans la maison avant avec, c'est très limité. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça peut toujours apprendre. Mais c'est vraiment ce chantage-là qui, par contre, est très lourd et est lourd pour elle aussi, parce qu'elle se sent un devoir sur ses épaules, de devoir comme ça l'accompagner. Un exemple, au début du confinement, il voulait qu'elle reste entièrement avec lui, et je lui ai dit pourquoi, et il m'a dit « Oui, mais si je tombe malade, qui va s'occuper de moi ?» Donc, voilà.
Oui, il fait reposer sur les épaules de cette petite beaucoup de responsabilités.
Oui, oui, oui.
Alors que, finalement, cela fait un an et demi que vous êtes parti. Vous voyez, depuis un an et demi, il aurait pu admettre cette situation, en fait.
Non, absolument pas. Ce n'est toujours
et
pas. Moi, il m'a encore envoyé, oui.
Et quel recours vous avez aujourd'hui pour sceller les choses avec cet homme, en fait, parce que le divorce est prononcé.
Oui, en fait, le divorce est prononcé, et moi, j'ai essayé de... Parce que le divorce a été assez, entre guillemets, violent, dans le sens où il ne voulait pas divorcer à l'amiable. Donc, l'avocat a pu argumenter, a pu faire un dossier avec tout ce que je lui avais donné. Et donc, le divorce, alors, a été assez rapide. On a été divorcés après 6 mois. Mais pour la répartition des biens, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il fait traîner, les choses. Et moi, j'aurais voulu que ça se passe correctement, sans devoir repasser devant un juge, et qu'on puisse s'entendre à partir du moment où j'étais prête à lui laisser la maison, ou ce qu'il voulait, quoi. Il pouvait choisir et on pouvait essayer de s'arranger. Mais non, en fait, il a toujours trouvé plein d'arguments pour essayer de noyer le poisson, on va dire, et de toujours faire retarder les choses. Ici, il prend le confinement comme prétexte pour dire que nous allons tous être dans une situation financière catastrophique et que pour nos enfants, il faut préserver notre patrimoine, etc. Voilà, il va prendre plein d'arguments. Il veut m'obliger à aller l'écouter parce qu'il dit qu'il doit défendre ses positions. Moi, je ne voulais pas. Et puis, je me dis que c'est la dernière chose que je ferai. Et après, ce sera, je lui dirai que ce sera l'avocat. Et donc, mon recours, c'est l'avocat et repasser devant le juge qui va obliger à vendre les biens.
Oui, c'est ça, parce que vous n'avez plus. À partir du moment où vous n'avez plus rien à voir avec cet homme, à part, j'ai envie de vous dire, cette petite de 13 ans, mais dont vous allez continuer à vous occuper, et à partir du moment où vous vendez cette maison, eh bien avec la moitié de la maison qui, je suppose, est payée depuis tout ce temps, il pourra se racheter quelque chose de plus petit. Et puis il devra faire.
Ah oui, mais il n'envisageait pas ça. Son standing, il voulait autre chose.
Mais oui, mais avant d'envisager autre chose, vous voyez, il fallait réfléchir un peu. Ça peut
tout
paraître
fait,
un peu violent, ce que je dis, mais lorsqu'on se sépare, lorsque. Voilà, j'ai envie de. Voilà,
mais c'est ça, en fait.
Lorsqu'on joue, on perd aussi.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'est cette histoire de traîner sur des sites de rencontres, de vous draguer alors que pendant 2 mois vous êtes sur un faux profil et vous voyez finalement à quoi il se livre. Je comprends pas qu'il puisse discuter en plus parce qu'il faut lui resservir ça. Hein, c'est,
non, mais il dit que je reparle toujours du passé et que lui a changé. À partir du moment où je lui ai annoncé que je divorçais, pour lui, on peut changer comme ça unilatéralement. Donc je lui explique que non, on ne change pas comme ça après 20 ans. Il veut changer d'effet, mais pas son être même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Si, je vois, mais surtout voilà, oui. ce que je retiens de votre histoire, c'est que on peut changer, ok, mais ça ne vous regarde plus s'il a changé. Ça ne vous regarde plus.
Voilà.
Ça fait un an et demi que vous êtes parti, que vous avez pris votre décision. On entend dans votre voix que vous êtes passé à autre chose, que cet homme, c'est terminé. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'il faut penser à vous dans cette histoire. Puisque lorsque lui allait sur des sites de rencontres comme ça, il pensait à lui beaucoup, visiblement, lorsqu'il voulait vous inviter, inviter cette femme fictive à aller prendre un verre ou à aller danser. J'ai l'impression que tout au long de sa vie, cet homme, il a compté sur votre, il a perçu que vous étiez courageuse, que il a perçu que que vous ne laissiez pas tomber l'idée que vous faisiez de la famille, de oui, vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a un moment où ça lui est tombé dessus. Parce que, de tout ce qu'il vous dit aujourd'hui, j'ai changé, il faut garder le patrimoine et tout ça. Mais tout ça, ce sont des arguments qui vont dans son sens pour qu'il reste dans la maison, pour que, Après, je n'ai pas à vous dicter, moi, je serais bien prétentieux
mais
de vous dicter.
Vous êtes d'accord avec moi, vous sentez la même chose?
Je sens qu'il
ne pense qu'à l'argent.
Je sens qu'il pense à lui avant de penser à l'argent. Et donc, par ricochet, il pense bien évidemment à l'argent. Lorsque, si vous voulez, aujourd'hui, lorsqu'on a voulu être à la retraite à 55 ans, lorsqu'on a compté sur la pension d'invalidité, sans doute, de sa femme pour pouvoir habiter à l'étranger, ou en tout cas là où le pouvoir d'achat, et puis qu'en même temps on allait slalomer sur des sites de rencontres et qu'on s'est fait choper, il faut en assumer les conséquences, c'est tout. Et tant mieux pour vous, vous l'ayez démasqué. Parce que moi là je pense à vous ce soir. Parce que vous pourriez me raconter toute autre chose ce soir, en me disant je suis dans une histoire, mariée depuis 22 ans, avec un mari que je sens mal engagé, et vous auriez très bien pu ne pas être au courant de tout ça. Or, cet homme, il n'était plus heureux non plus avec vous, sans doute, il ne vous aimait plus, et il n'a pas eu... il a misé sur le fait que ça allait continuer comme ça, mais... On peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre comme ça. Enfin, moi, j'imagine pas ça. Vivre jusqu'à la fin de sa vie avec quelqu'un avec qui on partage plus rien, avec qui on est plus heureux en fait, rien que parce qu'on a une maison en commun. Vous vous rendez compte de la tristesse de l'histoire. Il est pas vieux cet homme. Il a quel âge aujourd'hui? Il a quel âge?
Je veux dire qu'il est quand même un peu vieux, mais il est de 63, donc...
Il a 57 ans. Il a 57 ans. 57 ans, la vie, elle est loin d'être finie à 57 ans, Sishka.
Mais lui considère que non.
Moi j'en ai 56, je peux vous dire que j'ai juste l'impression que j'ai encore une tonne de choses à faire, et je ne me considère pas en pré-retraite, vous voyez. Et je sais qu'il y a un paquet d'hommes et de femmes qui sont comme ça. Il a des ressources à 57 ans. Il a décidé qu'à 57 ans, il ne ferait plus rien. Qu'il allait être pépère à la retraite, et que vous alliez le laisser dans la maison, et puis l'appartement, on ne le vendrait pas. Puis peut-être avec sa mini-retraite, ou même, je ne sais pas, le RSA, il arriverait à se faufiler comme ça. Mais encore une fois, Sishka, ça n'est pas votre problème. Le seul problème qui vous concerne, c'est votre fille de 13 ans. Comment elle vit ça? Comment vous pouvez lui faire comprendre votre position? Comment elle peut la saisir, cette position? Alors c'est difficile, hein, 13 ans, en plus c'est un âge compliqué, 13 ans pour une fille, elle est en préadolescence, donc il y a beaucoup de choses qui bougent à 13 ans pour une jeune fille, et puis l'image du papa, c'est important hein, pour une jeune fille. Hein. On sait que la construction d'une jeune fille se fait beaucoup par rapport au père. Donc, votre préoccupation, elle doit plus être par rapport à cela. Entretenir des relations avec lui paisibles, ne pas, voilà, mais être ferme sur ce que va être votre vie maintenant, si je
puisse. Moi j'ai 52 ans.
Bon, vous avez 52 ans.
Justice, hein, ça va arrêter totalement les relations cordiales. Hein. J'en suis certaine.
Ben oui, mais c'est.
Mais bon.
Bon, mais c'est pas. Enfin. Oui. Quelle autre solution maintenant, y a-t-il avec quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de ça?
Non, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution.
Ben non.
Oui, non. Voilà, j'ai attendu suffisamment, je pense, que pour dire maintenant, il faut tourner la page. Et justement, à propos de ça, ben, je voulais quand même avoir des choses positives à dire parce que ça ne s'est peut-être pas entendu, mais je suis pour quelqu'un d'assez optimiste. Et j'ai plein de projets. Quand vous disiez qu'est-ce que vous voulez faire ou vous avez des projets, ben, enfin, j'ai déjà réfléchi. J'ai d'abord la chance d'être énormément entourée par ma famille et j'ai des amis sur qui je peux compter. Je les appelle, ils répondent tout de suite. J'ai fait une embolie pulmonaire il y a quelques mois. Je devais déménager. Eh bien, le déménagement, il s'est fait comme ça. J'ai pas levé le petit doigt. Ils sont venus, ils ont tout fait. Voilà, j'ai la chance d'avoir des gens formidables autour de moi. Et puis, on a des projets aussi. On a des projets de logement en cohabitation. Enfin, pas en cohabitation, mais on va essayer de faire des logements partagés pour pouvoir s'entraider plus tard.
Ouais.
Pas vraiment colocation, non. On va essayer de faire construire des bâtiments modulaires. Avec un bâtiment central et puis chacun notre petite indépendance, mais on sera 4 ou 5 et on pourra s'entraider comme ça, voilà. Et donc, voilà. Et sinon, je faisais plein de choses, ici évidemment avec le confinement, avec mes problèmes de santé, mais je m'occupe aussi d'un cours de danse pour malades de Parkinson. On danse le tango et la salsa.
C'est super.
Et c'est formidable.
Ben oui, mais...
Ces gens m'apportent tellement, c'est extraordinaire.
Ben oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez bien conscience que vous avez 52 ans et que la vie, elle est bien présente. Et c'est un âge, vous savez, c'est un âge où en plus on concrétise plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui maturent à cet âge-là. On s'apaise beaucoup. La vie à cet âge-là est aussi passionnante, je trouve. Et vous êtes, on sent beaucoup de vie hein, dans ce que vous nous dites. Et finalement, cet homme, en fait, il est au ralenti par rapport à vous. Alors que c'est vous qui êtes malade, c'est vous qui pourriez.
C'est marrant.
Voyez, donc il faut pas vous laisser. Voilà. En tout cas, pas de culpabilité.
Ralentir,
non. Et puis pas de culpabilité sur le fait que. Pas de culpabilité sur le fait que vous deviez aller en justice. Il va à nouveau essayer de vous baratiner là, parce que c'est ça en fait, en vous disant
sûrement.
Le patrimoine.
Oui.
Mais le patrimoine, ça n'a que de la valeur quand on continue de s'aimer, quand on continue de porter ce patrimoine pour les enfants. À partir du moment où on se sépare, et ben le patrimoine, on doit le couper en deux. Voilà, c'est tout. C'est la vie. Et je peux paraître un peu, encore une fois, un peu cassant, un peu sec dans ma manière de voir les choses. Mais pourtant, je pense que c'est la manière la plus saine. Pas de faux semblants, pas de j'ai changé, je ne suis plus le même qu'avant. Non, c'est fini, en fait. C'est fini, si je tiens, pour vous.
Ah oui, bon. Oui, pour moi, c'est fini.
Bon, voilà, donc allez au bout. Et au bout... Au bout, c'est aller en justice pour vendre cette maison, vendre cet appartement. Vous, vraiment vous occupez du patrimoine de vos enfants, de la petite de 13 ans, qui aura peut-être besoin d'un petit appartement quand elle va commencer ses études, ou celle de 21 ans, qui aura besoin peut-être d'être accompagnée. Mais votre vie, aujourd'hui, elle est sans lui. Et il doit vraiment réaliser que sa vie, aujourd'hui, elle n'est plus avec vous.
Mais ça c'est ça qui est très difficile à lui faire comprendre.
Mais,
je pense que personne, jamais, ne pourra lui faire comprendre.
Oui, mais peu importe, finalement. Parce que ce qui est important, c'est ce que vous, vous décidez aujourd'hui. Votre réalité aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. C'est vos deux enfants et ce que vous allez décider pour votre vie. Aujourd'hui, cet homme a disparu, en fait, des radars pour vous. Vous avez décidé que c'était fini. Voilà, je
oui,
pense que...
Vous avez tout dit. Comment ?
C'était un peu le nœud du
problème. Mais je veux dire, j'appelais, en fait, vraiment, c'est le problème qui me préoccupe là pour le moment. Et c'est marrant parce qu'on a parlé de plein de choses et puis on en revient à ça qui est l'essentiel pour aujourd'hui.
Qui est l'essentiel pour aujourd'hui et qui va construire votre demain ? Parce que une fois cette problématique de maison et d'appartement évacuée, quand vous l'aurez vendue, vous n'aurez plus aucun lien avec cet homme.
Oui.
Il n'aura plus aucun moyen de vous parasiter la vie.
Oui.
Voilà.
Et je crois que c'est lui, c'est pour ça qu'il veut tout garder. Et moi, c'est pour ça que je veux tout couper.
Je pense aussi que lui, vous savez, c'est symptomatique de certains hommes qui restent des petits garçons un petit peu toute leur vie. Et qui pensent que, oh là là, j'ai fait une bêtise, mais bon, c'est pas grave, j'ai changé, je vais changer. Mais en fait, les femmes sont souvent, elles, attachées à leur réalité, quoi, et matures en même temps qu'elles vieillissent. Et y a des choses qui ne passent pas. Et il y a des choses qui ne passeront jamais. Et je pense que le coup du site de rencontre a scellé la fin de votre histoire. Et voilà, et la fin de cette histoire, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Il est le père de vos enfants. Voilà, vous lui devez, si vous en avez envie, et je pense que c'est toujours mieux, un respect mutuel serait de bon augure. Mais c'est tout, c'est fini. Vous savez, il y a tout un tas de gens qui pensent que s'ils font des enfants, voilà, on est lié à vie là, et puis on doit, on doit continuer à se raconter notre truc et tout. Mais non, mais il y a un moment où, quand l'autre a plus envie de voir l'autre, il a le droit d'arrêter.
Oui. Vous avez l'habitude de le dire, et c'est vrai qu'on l'oublie souvent.
Mais oui, parce qu'on est embarqué par le passé, les souvenirs, et c'était si bien. Et tu te rappelles quand on a vécu ça, mais ça, c'est fini. Oui, c'était bien.
Oui.
C'était bien, mais regarde ce qu'on vit là maintenant, quoi. Regarde tout ce qu'on a vécu de mauvais là. Et moi, j'ai plus envie de vivre ça.
Oui. Notez que là, moi, j'ai aucun regret par rapport.
Ah non, mais j'ai bien noté. J'ai bien noté. J'ai bien noté. C'est pour ça que
décision, ouais. Mais c'est ça qui me reproche aussi. Il m'a dit quand tu as pris ta décision, tu as absolument refusé de revenir dessus. Je dis ben.
Mais parce c'est typiquement masculin, ce type d'argumentation. Et parce que quand une femme décide quelque chose, à l'inverse des hommes, elle s'y tient. Parce qu'elle sait pourquoi elle décide ça. Vous voyez ? Il y a parfois souvent dans les décisions comme ça, conjugales des hommes, un certain battement, vous voyez ? Parce que je le dis souvent ici, sur cette antenne, nous sommes beaucoup plus immatures que les femmes, parce que, et ça tient sans doute au fait de donner la vie. Quand on porte un enfant, quand on donne la vie à un enfant, pour moi, les femmes sont beaucoup plus responsables que nous et beaucoup plus matures très vite. Regardez les gamines de 15 ans aujourd'hui et comparez-les aux garçons de 15 ans. Je peux vous dire qu'une gamine de 15 ans aujourd'hui est beaucoup plus, souvent, beaucoup plus mûre, beaucoup plus réfléchie qu'un garçon qui continue à penser à jouer au foot, à jouer au tennis, et puis, qui sent ses premières sensations et qui a pas beaucoup de suite dans les idées, en fait. Les femmes, en fait, lorsqu'elles ont... Je m'adresse à tous les hommes qui écoutent cette libre antenne. Lorsqu'une femme a pris une décision, messieurs, croyez bien qu'elle y est bien accrochée et qu'il faut se méfier quand une femme vous annonce qu'elle a pris une décision. Parce que nous, les hommes, on peut prendre des décisions et avoir moins réfléchi. Les hommes sont d'éternels petits garçons, vous voyez. Voilà. Moi, je vous livre ma vision des choses.
Oui. Mais c'est même triste, hein, parce que ce sont des garçons, mais pourquoi sont-ils des garçons? Est-ce parce que nous, les mères, on les a élevés comme ça? Enfin, je n'ai pas eu de garçon, mais on a presque l'impression que c'est quand même aussi... ça, c'est un autre débat. Je ne sais pas si c'est intrinsèque au fait d'être un garçon ou une fille, ou bien si c'est l'éducation.
Non, je vous l'ai dit à quoi ça tenait. Vraiment, c'est important ce que je vous ai dit. C'est le fait de porter un enfant et de donner la vie à un enfant. Il y a un sens des responsabilités là qui est énorme. Le fait de donner la vie à... on a perdu Sishka en route. Peut-être la récupérera-t-on, mais bon, on va accueillir.